Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur.
Liberté, égalité, fraternité.
Et pour sa grandeur.
Comment allez-vous ?
Eh bien, très bien.
Très bien.
Très bien.
Vous êtes de retour à l'Assemblée nationale ou pas encore ?
Alors oui, j'y suis retournée la semaine dernière. Je tourne ce jeudi matin puisque nous débutons le projet de loi qui proroge l'état d'urgence sanitaire.
D'accord.
Voilà.
Et comment c'était l'ambiance ? C'était la première fois que vous y retourniez depuis le début du confinement ?
Ouais, alors c'était assez particulier parce que déjà, on n'était que 75 dans l'hémicycle et déjà, on avait augmenté la jauge par rapport aux semaines précédentes. Et si vous voulez, la plupart des bureaux et des espaces où on est d'habitude sont fermés pour minimiser aussi les risques de transmission. Les fonctionnaires désinfectent tous les micros à chaque fois qu'on parle. Donc il y a un grand respect des règles d'hygiène et on est séparé dans l'hémicycle, donc en fait on peut s'asseoir qu'à certains endroits qui sont sur lesquels il y a une petite affichette pour qu'on puisse s'asseoir, quoi. Donc c'est vrai que notre fonction à nous, c'est beaucoup du contact, c'est des échanges avec des collègues dans les couloirs, c'est des échanges avec les journalistes salle des quatre colonnes, c'est des échanges aussi à la buvette avec même des députés d'autres groupes. Donc là, c'est évidemment très particulier.
Et vous ne portez pas de masque, c'est ça ?
Et alors, on peut porter des masques dans l'hémicycle. Ça, c'est donc les nouvelles règles qui ont été annoncées par Richard Ferrand, président de l'Assemblée. On devra évidemment les retirer quand on parle. Mais on pourra les porter et on est plutôt encouragé à les porter évidemment en dehors de l'hémicycle, mais même dans l'hémicycle.
D'accord. Bon, et j'ai appris que donc vous faisiez partie des premiers à revenir progressivement à l'Assemblée. Est-ce que il va y avoir on en parlait la semaine dernière avec un autre député, une autre députée qui nous disait qu'il y allait avoir un retour progressif de plus en plus de monde, c'est ça ? C'est comme ça que ça va se passer par vague ?
Oui, alors disons qu'on va pouvoir augmenter le nombre de députés à partir du 11 mai. Il y a un processus de déconfinement de l'Assemblée qui a été, avec un certain nombre de procédures qui a été décidé en conférence de présidents, mais on ne pourra pas aller au-delà de, je crois que c'est 150 députés, parce que de fait, si on est plus nombreux que ça, on est normalement 577, on ne peut pas respecter les règles de distanciation physique au sein de l'hémicycle. Donc,
Et du coup, vous allez vous organiser entre vous pour qu'il y ait un roulement, que ce ne soit pas toujours les mêmes ? Comment ça va se passer ?
Oui, je pense que ça sera aussi en fonction des sujets qui sont, voilà, et des commissions qui seront représentées, et aussi en fonction des possibilités de déplacement, parce que j'ai un certain nombre de collègues qui sont assez loin et qui ont là plus assez de transports en commun pour pouvoir venir. Donc, ça va être en fonction des contraintes aussi de garde d'enfants, parce que j'ai beaucoup de collègues qui ont des jeunes enfants qui vont pas forcément retourner à l'école. Donc, on va faire en fonction de tous ces paramètres-là, personnels et puis professionnels.
Bon, là, c'est vrai que ça doit être un peu particulier. Comment s'organise le travail parlementaire en fait ?
Alors, on continue. Finalement, on a mis peut-être une semaine ou deux à retrouver nos marques. Mais on arrive finalement à faire beaucoup de choses avec les visioconférences, les conférences téléphoniques. Moi, j'ai par exemple tous les lundis une audioconf avec le préfet, avec tous les parlementaires du département, avec le président des maires du Loiret, avec donc un certain nombre d'élus. On a des réunions d'équipe, pareil, deux fois par semaine. Et on a beaucoup de mails et beaucoup d'utilisation aussi des réseaux sociaux. Moi, j'utilise encore plus que d'habitude Facebook, Instagram, Twitter. Twitter, mon site internet, parce qu'effectivement, les gens, c'est un peu le moyen, la façon d'échanger avec les habitants, quoi.
Et là, vous avez passé votre confinement dans votre circonscription, du coup ?
Oui, tout à fait, chez moi, avec mon mari, avec mes trois enfants. Donc, j'ai fait la classe à mes enfants. C'est
ah, il est content.
Ouais, enfin, en fait, je l'ai peu fait. C'est plus mon mari, parce qu'effectivement, ça prend beaucoup de temps. Et je me rends une fois par semaine dans ma permanence. Donc là, je suis dans ma permanence, déjà parce que j'ai une meilleure connexion Internet, et puis parce que ça me permet aussi de faire un certain nombre de travaux avec mes collaborateurs que je ne peux pas faire de chez moi.
Bien sûr. Et vous êtes dans quelle ville, vous, alors ?
Alors, à Orléans.
À Orléans.
Orléans, voilà.
Super.
Et donc, j'habite à proximité d'Orléans.
Ouais. Et vos collaborateurs sont revenus travailler avec vous ? Ils continuent à distance ? Comment ça se passe pour le moment ?
Alors, j'ai trois collaborateurs. Donc, deux sont en télétravail depuis le début. Mais finalement, on s'organise pas mal comme ça. Donc, je pense qu'on gardera quelques jours, enfin, en fonction après de leurs besoins, mais en télétravail. Et j'ai une collaboratrice de circonscription qui, elle, pour le coup, continue à venir de temps en temps à faire des déplacements, parce qu'on a organisé un certain nombre de livraisons de gel hydroalcoolique, de contenants alimentaires, par exemple, pour des associations. Donc, on a fait un peu un tour de tous les acteurs locaux, de leurs besoins. On s'est rapproché d'entreprises qui avaient des dons à fournir. Donc, on a pu réceptionner les dons, aller les livrer. Et donc, j'ai une collaboratrice qui s'occupe de ça, notamment.
Comment ça se passe dans votre circonscription, le confinement et l'épidémie ? Est-ce que ça a touché beaucoup de personnes ? Des personnes que vous connaîtriez, peut-être, de votre, des administrés de votre circonscription ?
Alors oui, évidemment, ça touche, je dirais, presque tout le monde, parce que beaucoup de gens ont soit un proche qui a été touché, soit sont inquiets pour leurs parents ou pour des proches qui sont en EHPAD. Hein, voilà, on a beaucoup de gens qui, d'une façon ou d'une autre, même si c'est pas directement par le coronavirus, qui sont inquiets pour eux-mêmes, pour leurs proches. Et je crois qu'effectivement, cette situation, elle va avoir un impact aussi sur la psychologie des gens et sur la façon dont chacun aura pu réussir à gérer cette crise.
Bien sûr. Vous effleuriez un peu le sujet tout à l'heure, donc je me permets de rebondir là-dessus. Vous parliez de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Quelles sont les dispositions du texte dont vous avez connaissance à ce jour ?
Alors, c'est une reprise en fait des mesures qui avaient déjà mis en place pour une durée d'un mois. Donc, c'est un prolongement de ces mesures. Il y a un certain nombre d'autres mesures, mais qui sont les contraintes qu'on connaît en termes de gestes de sécurité et les fermetures qui sont nécessaires. Nous, ce qu'on fait en tant que députés sur ce texte, c'est qu'on essaye, parce qu'on a une expérience maintenant de 6 semaines de confinement, et donc on essaie d'adapter un certain nombre de dispositifs qui nous paraissent soit aller trop loin, soit au contraire être pas assez sécurisés. Pour vous donner un exemple concret, on est en train de travailler avec mon équipe sur un amendement pour permettre à un certain nombre de salles, de petites salles de sport avec des coachs individuels, de rouvrir dès le 11 mai ou un peu plus tard, évidemment en respectant, là encore, des règles de distanciation, la désinfection de tous les espaces et les équipements qui seront utilisés. On a un peu plus d'éléments concrets et de remontées qui nous sont faites, qui vont nous permettre d'aménager encore une fois à la marge, parce que le principe reste le même, c'est-à-dire le principe de ce texte, et c'est le même que le précédent, c'est d'abord la sécurité sanitaire, la santé des Français, mais avec une attention sur la façon dont on peut maintenir la vie économique, d'abord pour évidemment mener à bien les fonctions essentielles du pays, mais aussi pour éviter que la crise ne soit trop forte une fois qu'on aura passé cette épidémie.
Bien sûr, bien sûr. Vous êtes très engagé sur la question de la transparence des prix des médicaments. On sait que c'est un combat que vous portez depuis désormais quelques années, depuis que vous êtes à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous pensez du non-plafonnement du prix des masques ?
Alors, c'est un sujet, là encore, qui est compliqué, parce que si on plafonne le prix, on permet évidemment à un certain nombre à peut-être un plus grand nombre de gens d'y accéder. Et encore une fois, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, entre les différentes catégories de masques, entre les masques chirurgicaux, entre les masques grand public, les masques qui sont réutilisables plus ou moins de fois d'ailleurs en fonction du matériau utilisé, c'est un peu compliqué de fixer des prix pour chacune de ces catégories. Et d'autre part, le risque, c'est quand même de limiter l'offre, parce qu'évidemment, un acteur économique, pour qu'il soit incité à produire et en quantité suffisante et qu'après que la grande distribution s'organise pour qu'il y ait suffisamment de points de vente, il faut qu'il y ait un bénéfice qui soit suffisant. Donc voilà, c'est un enjeu, mais qui est, à mon sens, compliqué et qui nécessite qu'on trouve effectivement un équilibre avec une incitation suffisante pour les industriels de production et effectivement un accès qui soit le plus large possible.
Oui, certains ont déjà fait état de l'augmentation de prix hein, par rapport aux périodes normales. C'est peut-être un peu inquiétant quand même. Enfin, il ne faudrait pas que ce soit... Il n'y a pas un moyen d'éviter en tout cas les abus du côté des industriels qui pourraient être tentés effectivement de taper un peu fort au niveau des prix.
Oui, mais après, si vous voulez, c'est aussi, la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire que plus il y a une offre qui est importante, plus les consommateurs peuvent faire leur choix. Et moi, j'invite vraiment tous les gens là qui nous regardent à bien regarder quel type de masque correspond à leurs besoins à eux aussi. Parce qu'effectivement, les masques jetables, pour le grand public, ça me semble un peu compliqué. Famille, on est cinq. C'est quand, si on respecte les durées d'utilisation, il en faut plusieurs par jour. Quand on fait un calcul sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, ça fait des quantités qui sont très importantes. Donc, je pense que effectivement, les masques qui sont réutilisables sont peut-être plus intéressants. Encore faut-il qu'effectivement, ils respectent bien les normes et qu'ils assurent bien la protection. Mais voilà, je pense c'est important que les gens effectivement se renseignent sur le type de masque et aussi sur la façon dont on les met. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens, l'autre jour, je me promenais, qui effectivement, par exemple, les faisaient glisser dans le cou. Et donc, en fait, toute la zone qui est contaminée, eh ben, finalement, elle contamine le reste du visage. Donc,
ils les remettent sur le visage.
Il y a une vidéo brute qui montre assez bien la façon dont moi, j'ai regardé. Mais je crois que voilà, il faut qu'on prenne un peu le temps avant de se précipiter, à mon avis, dans les points de vente et d'acheter quantité de masques qu'on n'utilisera peut-être pas de la bonne façon et qui ne correspondra peut-être pas à nos besoins.
Oui, bien sûr. Il y a une des personnes qui nous suit qui nous pose la question de savoir si c'est une bonne idée ou pas de les faire soi-même. Est-ce que vous préconiseriez ça? Par exemple, vous parliez des masques jetables. Est-ce qu'un masque en tissu, bien qu'il ne protège peut-être pas aussi bien que d'autres masques, en tout cas médicaux, chirurgicaux, ou FFP2, est-ce que c'est une bonne idée?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup de proches qui en ont fait, quand on respecte là encore les matériaux et les tutoriels avec les patrons qui sont sur des sites qui sont des hôpitaux ou des agences de santé. Donc en effet, je pense que ça peut être une, quand on a la capacité de le faire, au contraire, oui.
Oui, bien sûr. Alors bon, on va parler d'autres choses parce que c'est important de faire un point sur ce qui est en train de se passer en ce moment et c'est tout l'objectif aussi de notre échange. Mais moi, j'aimerais qu'on parle un peu de vous quand même, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Parler de votre parcours, comment en êtes-vous arrivé là? Là, ça fait un peu plus de 2 ans et demi, bientôt 3 ans que vous êtes donc à l'Assemblée nationale. Si je ne me trompe pas, c'est votre premier mandat, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Comment cet engagement politique s'est développé en vous? Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a influencé et comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faisiez déjà avant d'arriver à l'Assemblée nationale, par exemple?
Alors, avant d'être élue, je travaillais dans une association régionale, une grosse assoce qui fonctionnait en fait un peu comme une entreprise avec 1000 salariés, un budget annuel de 60 millions d'euros, donc pas un peu ce qu'on imagine quand on parle d'association, et une association qui en fait, moi j'étais au siège social, gère toujours d'ailleurs des établissements médico-sociaux, donc des établissements qui accueillaient des publics fragiles, des enfants qui étaient par exemple placés, des personnes handicapées ou des personnes qui étaient à la rue. Ou en demande d'asile, voilà. Et moi, je m'occupais plutôt des aspects financiers, stratégiques, négociations avec les autorités de financement, voilà. Mais donc, c'était pour moi un peu une forme d'engagement politique, en fait, parce que j'avais le sentiment d'être utile en travaillant sur ces questions qui me tiennent à cœur depuis longtemps. Et mon engagement politique, en fait, moi, j'avais... Pendant longtemps, j'ai fait mes études à Sciences Po, donc c'était quelque chose qui m'intéressait, mais J'avais été un peu déçue à ce moment-là de l'offre politique et puis surtout de la pratique politique. J'avais vraiment le sentiment qu'ont beaucoup de gens aujourd'hui la fin justifiait les moyens, que beaucoup de personnes avaient des ambitions uniquement personnelles et qu'en fait, on avait des grandes idées, mais dans les faits, c'était un peu l'inverse qui se produisait. Et c'est vrai que avec Emmanuel Macron et ce parti En Marche, j'ai été vraiment séduite par cette proposition de faire de la politique différemment et avec une chose très concrète et qui en fait me semble vraiment fondamentale, qui est de dire il faut qu'on ouvre, il faut que on sorte d'une classe en fait qui s'adresse à une classe de journalistes, donc une classe de politique avec très peu de gens qui comprennent les codes, qui s'y intéressent, qui ont le sentiment de comprendre. Et donc moi, mon ambition aujourd'hui, ça reste encore celle-là, c'est de dire voilà, de dire à tous les gens avec qui j'échange, que ça soit des écoles quand j'y vais ou voilà, des jeunes, mais aussi les moins jeunes, de dire mais en fait, la politique est l'affaire de tous et il faut vraiment tous qu'on s'y intéresse et qu'on se présente un jour à une élection, quelle qu'elle soit, nationale ou locale.
Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans votre vie, si vous avez une chose en particulier à nous citer, depuis que vous êtes arrivée à l'Assemblée nationale ?
Tellement de choses qui ont changé, c'est difficile d'en... Non, c'est un sentiment de responsabilité très fort, c'est, je dirais, beaucoup de pression, en fait, parce qu'on a quand même, à la fois des marges de manœuvre et accès à beaucoup d'informations, mais on sent aussi beaucoup la colère des gens, on la sent parfois au quotidien hein, avec les réseaux sociaux, avec les courriers qu'on reçoit, avec les et donc c'est peut-être cette responsabilité qui fait que eh bien je voilà on est peut-être moins léger que quand on a que dans ma vie d'avant, ça c'est sûr.
Oui, vous vous sentez vous avez les épaules un peu plus chargées d'une responsabilité pour l'intérêt général.
Voilà, qui va avec un intérêt. Et moi, je considère que c'est vraiment une chance immense et que c'est un honneur de. Mais donc, mais voilà, je trouve que effectivement, régulièrement, je me sens inquiète sur. C'est un peu le poids décision sur le. Est-ce que notre pays, voilà, comment on va réussir collectivement à résoudre cette situation comme il y en a. Voilà, il y a une espèce de. Peut-être de prise de conscience que en fait on est lié aussi par quelque chose de collectif et je me dis en fait plus il y a de gens qui sont conscients de ça plus on arrivera aussi à surmonter les défis qui nous sont collectivement posés en fait qui sont pas posés qu'aux politiques quoi.
Ouais, bien sûr. Depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir les outils nécessaires pour répondre à votre engagement, à votre volonté de vous engager au quotidien pour l'intérêt général ? Est-ce que vous pensez que vous êtes en capacité, vous, en tant que député, de manière isolée ou de manière coordonnée et collective, de faire changer les choses vraiment ?
Oui, ça, c'est une vraie question. C'est une question que je me pose depuis 3 ans et qu'à mon avis, je continuerai à me poser pendant les 2 dernières années de ce mandat. C'est de comment être le plus actif, comment être le plus efficace. On vote les lois, évidemment, mais parfois, on va être plus efficace par une tribune ou par une prise de position dans les médias ou par une rencontre qu'on va faire, que ce soit auprès des services déconcentrés de l'État localement ou auprès des ministres. Donc, en fait, pour moi, une grande partie du rôle du député, c'est un peu de participer à la fabrique de l'opinion publique, c'est-à-dire un peu d'éclairer le débat public en disant bah voilà, moi je me positionne de cette façon pour telle et telle raison, à vous de d'en juger, mais en tout cas d'alerter ou de donner une opinion qui va permettre ou non de faire changer d'avis, que ça soit un certain nombre de gens par les sondages après qu'on et on le voit par les sondages, que ça soit un ministre et tout ça. Donc moi j'ai le sentiment que voilà, quelque part une partie importante de mon rôle c'est celui-ci, parce qu'après évidemment, il y a les projets de loi, il y a les amendements, il y a des questions écrites, on a des questions au ministre, on a beaucoup d'outils comme ça. Et ça ne marche. Moi, j'ai le sentiment que quand c'est collectif, quand on arrive à emmener, par exemple, ses collègues députés du même groupe, quand on arrive à emmener éventuellement le mouvement sur un sujet qu'on porte. Donc ça, effectivement, c'est un travail de longue haleine. C'est parfois frustrant. Mais je crois que ça marche, mais c'est pas toujours aussi visible et toujours aussi spectaculaire qu'on voudrait parfois.
Bien sûr. Bon, on passe une période compliquée. Souvent, les crises sont aussi l'occasion de se renouveler, de revoir nos méthodes de participation, de prise de décision, etc. S'il y avait quelque chose de fondamental à changer dans le système politique et citoyen et républicain démocratique français actuel, à court terme, qu'est-ce que ce serait d'après vous? Qu'est-ce qu'il faudrait ajuster?
Vous voulez dire au niveau institutionnel, au niveau des institutions?
Institutionnel, absolument, ouais. Que ce soit davantage de participation citoyenne ou davantage de transparence, que sais-je. Fonctionnement aussi de l'Assemblée nationale, peut-être réduire le nombre de députés, de commissions, organiser les choses différemment.
Moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes veulent participer à la prise de décision. Et moi, je trouve que c'est tant mieux. Il n'y a rien de pire que quand les gens se désintéressent de ces questions-là. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas allé assez loin, justement, dans ces changements-là. Dans, par exemple, la prise en compte de pétitions en ligne. On a des sites comme change.org qui sont, voilà, qui permettent de mobiliser des gens. Et c'est fantastique de mobiliser des millions ou même des centaines de milliers de Français sur un sujet. Dans des outils, en effet, de transparence. Moi, j'essaye par exemple, je communique beaucoup, j'ai une newsletter qui fait un peu office de rapport d'activité mensuel où je mentionne la quasi-totalité de mes activités. Et je crois que ça, il faut qu'on soit davantage transparent sur ce qu'on fait pour que les gens, en fait, comprennent pourquoi l'hémicycle est souvent vide, mais malgré tout, on travaille 70-80 heures par semaine. Pourquoi est-ce que là, on n'a pas la possibilité d'être en circonscription parce qu'en fait, on est à Paris ou l'inverse. Enfin, voilà. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit, en effet, beaucoup plus transparent là-dessus. Et peut-être qu'on améliore les outils de type, voilà, les référendums, notamment locaux. Moi, je crois que ce sont des très bons outils, ça, pour prendre des décisions très concrètes qui vont avoir un impact sur le quotidien local. Donc oui, je pense qu'il y a des choses à faire.
Ouais, super. Le podcast Place du Palais Bourbon a pour ambition de recréer du lien entre les citoyens et leurs élus. Comment vous faites au quotidien pour maintenir ce lien avec vos électeurs?
Alors moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, hein, donc voilà, Facebook, Instagram, Twitter, et puis d'ailleurs, sur chacun de ces médias, je communique d'une façon assez différente parce que ce n'est pas forcément le même public, c'est pas forcément les mêmes communautés et les mêmes critères en fait d'appréciation de ce qu'on fait. C'est vrai que Instagram, par exemple, j'aime bien ce média parce que ça permet d'avoir une communication beaucoup plus personnelle, plus intime, et je trouve que c'est important. Donc beaucoup les réseaux sociaux, évidemment les courriers papier, les mails, les téléphones. J'échange beaucoup dans ma permanence, je reçois toutes les personnes qui sollicitent un rendez-vous. Et puis évidemment, ça passe aussi après beaucoup par les médias, hein, par voilà, les interviews, par les. Moi, je effectivement, quasiment à chaque fois qu'on me propose de débattre, j'accepte parce que je trouve que c'est important que qu'on soit le plus visible possible pour que les gens aussi puissent se faire un avis.
Quels sont vos principaux combats pendant cette législature?
Alors, j'ai un combat qui, pour le coup, est dans le prolongement de mon activité associative, qui est donc la question du handicap. Et donc là, j'ai beaucoup travaillé sur, par exemple, j'ai créé un label pour les entreprises, pour les inciter à davantage employer des personnes handicapées. J'ai créé aussi un autre amendement dans le cadre de la loi audiovisuelle, qui est malheureusement, du coup, a pas pu être voté. La loi, l'amendement avait été voté mais en commission, mais qui a quand même été mis en œuvre à l'occasion de la crise, qui est une traduction en langue des signes de toutes les communications importantes. Et vous avez peut-être remarqué, voilà, que le ministre de la Santé, maintenant, a toujours un traducteur, Emmanuel Macron, le président de la République aussi, voilà. Donc, c'est le sujet du handicap, parce que je crois que c'est important d'être plus inclusif, mais aussi parce que je crois que c'est un sujet universel et qu'en fait, on a une société qui valorise énormément la performance, dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle. On parle même de burn-out parentaux. On a des parents qui font des burn-out parce qu'ils essayent d'être tellement parfaits pour leurs enfants. Et que plus on prendra en compte le handicap, plus en fait on a tous une forme de handicap ou de difficulté, qu'elle soit physique, sensorielle, cognitive. Et plus on aura une société qui finalement sera tolérante vis-à-vis de la différence, prendra en charge un peu les besoins de chacun. Dans d'autres pays, on ne parle pas de handicap, on parle de people with special needs. Vous voyez, je trouve que c'est très fort. Donc voilà, bon, je ne veux pas être plus longue sur le handicap parce que j'aime bien parler de ce sujet. Il y a ce sujet-là, il y a le sujet de la ruralité, de mieux prendre en compte les territoires ruraux. Moi, je vis je vis à la campagne. Il y a le sujet de l'Europe aussi, parce que je considère que voilà, on sera plus fort à une échelle européenne. Et puis la géopolitique, c'est un sujet moi qui me passionne. Voilà, parmi après beaucoup d'autres sujets qui arrivent aussi au fil de l'eau.
Oui, bien sûr. Il est peut-être un peu tôt pour vous le demander, mais est-ce que vous comptez vous représenter?
Alors en fait, je sais pas. Aujourd'hui, je saurais pas vous dire. C'est un choix que je ferai aussi avec mon mari, mes enfants, parce que évidemment ça implique beaucoup de changements dans la vie familiale. Voilà. Et puis on a 2 ans là qui vont être très compliqués. Donc aujourd'hui, c'est un peu au jour le jour.
Pour vous, donc à très court terme, quand on sera, j'espère bientôt sorti de cette crise, quelles devront être les mesures principale à prendre et prioritaire à prendre en fait et à mettre en œuvre
dans la sortie l'après-crise, moi je crois qu'il va falloir qu'on soit plus solidaire parce qu'on n'y arrivera pas sans associations qui sont toujours là pour un peu combler les brèches et s'occuper de ceux qu'on ne voit pas parce qu'ils ont des situations par exemple trop particulières. Donc je crois qu'il faudra qu'on soit plus solidaire, qu'on fasse évidemment un virage écologique plus fort. Et moi, je fais partie d'un certain nombre de députés qui plaident pour que tout l'argent qu'on va réinjecter, on va injecter des sommes très importantes, serve à financer des entreprises qui respectent l'accord de Paris, qui respectent évidemment les process de transition écologique. Et je crois qu'il va aussi falloir qu'on insiste sur ce que vous évoquez sur le plan démocratique, c'est-à-dire qu'on associe davantage les citoyens, qu'on réinvente un peu notre façon de faire des choix, de faire des arbitrages politiques et qu'on inclue encore plus de gens. Oui.
Avec la vague La République en marche qui est arrivée à l'Assemblée nationale il y a près de 3 ans désormais, est-ce que vous avez le sentiment que le travail parlementaire s'est rénové tout de même? Alors, vous n'étiez pas à l'Assemblée avant, mais vous aviez quand même, en plus, vous êtes passé par Sciences Po, etc., donc vous aviez quand même une bonne vision des choses. Est-ce que vous pensez que les choses se sont améliorées dans un sens de plus d'inclusion des citoyens, ou est-ce que vous pensez que finalement pas grand-chose a changé, bien qu'il y ait eu un gros renouveau de l'Assemblée?
Je pense que les choses ont changé. Déjà, dans le profil des députés, on a féminisé et rajeuni l'Assemblée, très clairement. Notre groupe, nous, il est strictement paritaire, on est à moitié autant de femmes que d'hommes. Donc au niveau de l'Assemblée, on est à 40% de femmes, ce qui était voilà, et aussi beaucoup de personnes plus jeunes. J'ai un certain nombre de collègues, par exemple, moi, qui ont eu des enfants pendant le mandat. Donc il a fallu aussi organiser ça. On a réfléchi, par exemple, au mode de garde, ce qui n'était pas vraiment une question qui se posait avant. Je pense qu'il y a aussi peut-être une plus grande proximité dans le sens où à la fois on est moins implanté parce que on est un certain nombre à avoir pas eu de mandat local, et ça je pense que c'est une difficulté parce que donc les gens nous connaissent pas forcément, nous connaissaient pas forcément avant. Allez, et d'un autre côté, je pense qu'on ressemble un peu plus. On est un peu plus pas la girl next door, mais on ressemble un peu plus, je pense, aux gens. Français qui font qui essaient d'équilibrer leur vie privée, leur vie professionnelle, qui ont des problématiques de très concrètes, et ça c'est des choses qu'on comprend peut-être mieux que des gens qui faisaient de la politique depuis longtemps, qui avaient plusieurs mandats, qui étaient un peu peut-être parfois déconnectés. D'autant que dans nos équipes de collaborateurs, on a aussi recruter des gens qui étaient aussi qui à la limite étaient très hostiles à la politique, donc voilà.
Oui, c'est bien. Effectivement.
Oui.
Quelle est votre plus grande inquiétude actuellement?
Ma plus grande inquiétude, c'est que qu'une majorité de gens, par peur de l'avenir, par peur de cette épidémie et puis de éventuellement d'autres épidémies, fassent les mauvais choix et fassent notamment le choix de la radicalité. Moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent, mais il faut que ça change, et il faut que ça change de façon radicale, il faut qu'on voit des effets. Et voilà, moi j'ai toujours été plutôt centriste et je considère que les choses de voilà, parfois prennent du temps, qu'il faut et ça me fait assez peur quand je vois bah évidemment des partis d'extrême droite ou d'extrême gauche qui promettent tout un tas de choses et qui communiquent avec beaucoup d'émotions, parfois souvent du mensonge. Nous on les voit arriver à les assemblées, hein, ils viennent dans un certain cas, pas toujours, hein, parce que parfois ils vont travailler sur des sujets, mais sur certains sujets ils vont venir, ils vont faire une grande déclaration tonitruante en défendant la veuve et l'orphelin, et on est tous d'accord sur ce qu'il dit, sauf que ça n'a aucun rapport avec le projet de loi qu'on est en train de discuter. Et sauf que cette vidéo-là, ils le savent pertinemment, ils vont la diffuser, elle va être vue des dizaines, voire des centaines, voire des millions de fois sur les réseaux sociaux, et les gens vont dire, ah, mais c'est scandaleux, ils n'ont pas voulu protéger la veuve et l'orphelin. Donc vous voyez, cette communication un petit peu facile, immédiate, qui joue sur l'émotion et qui demande des changements très radicaux. Voilà, moi j'espère qu'effectivement les gens vont pas tomber dans ce piège-là et que pendant au cours des prochaines échéances, on n'aura pas des choix comme ça, comme ça arrivait malheureusement en Italie, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Voilà.
Super. Bon, je vous remercie beaucoup. Je ne vais pas vous garder beaucoup plus longtemps parce que j'imagine que vous avez plein de choses à faire pour préparer le projet de loi qui sera discuté donc la semaine prochaine, n'est-ce pas, à partir de la semaine prochaine.
Ce jeudi. Jeudi. Après-demain.
Ouais. La semaine prochaine après aussi. Il y a plusieurs séances, j'imagine.
On espère terminer dimanche minuit.
D'accord. Ok.
On espère.
Bon courage alors.
Merci.
Merci beaucoup et peut-être à bientôt.
Avec plaisir. Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.